Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque lundi, hein, 19h, 20h30. Alors aujourd'hui ça va être très foot, on va justement profiter de la qualification du Paris Saint-Germain pour sa deuxième finale de Ligue des Champions pour effectivement aller un peu plus loin dans l'actu du ballon rond au cours de cette émission. On retrouvera donc naturellement aussi un grand journal des sports avec Théo. Et puis nos invités aujourd'hui, ah, c'est un club mythique, hein, c'est le club des polymusclés. Donc je vais saluer nos deux invités, je suis ravi qu'ils soient avec nous. D'abord quelqu'un qu'on ne présente plus, Bernard Ménez. Bernard, bonsoir. Énorme merci pour votre présence.
Ah ben non, c'est... j'habite Paris, c'est bon. C'est pas très difficile.
Très bien, alors, comédien, chanteur, ouais. Et puis grand passionné de sport.
Oui, de différence. D'ailleurs, en ce moment, il y a eu la demi-finale avec le Bayern. Bon. Oui. Et c'était juste hein, quand même, hein, le PSG. Ouais. On a doué Dembélé, donc ça fait une belle attaque. Et ils arrivent à se passer d'Mbappé quand même.
Oui. Ah oui, en plus, oui. On, ouais. Ouais,
et puis en ce moment, le tennis, c'est très intéressant. Parce qu'on vient de quitter le Madrid pour Rome, et Roland-Garros nous arrive bientôt à la figure.
Ouais. Et je vois un grand passionné de sport, c'est bien Bernard. Oui. Alors, Azad Sana qui est avec nous, bonsoir. C'est bonsoir. Le président.
Donc, effectivement.
Hein, des polymusclés. Énorme merci en tout cas pour votre présence. Alors, on parlera un petit peu de votre parcours, votre itinéraire, comment on en arrive à devenir président de ce mythique club. Et puis, je vais saluer celles et ceux qui sont autour de la table. Tiens, elle nous revient. Elle a eu trois petites semaines de vacances. C'est Vanessa. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, Philippe.
Ouais. Oh, bah, c'est le paradis avec.
Exactement. vous savez ce qu'avait dit Serge Gainsbourg à Vanessa Paradis? Ouf. Il avait dit qu'avec Vanessa Paradis, c'était l'enfer.
Oui. Il était capable de tout, celui-là.
Bonsoir, Théo.
Et merci pour le compliment.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir
ça
à tous.
Bon, ça y est, Paris Saint-Germain l'a fait. On en parlait la semaine dernière. Hein.
C'est vrai. C'est voilà. La fin de la peur jusqu'à là, dans trois semaines.
Bon, tu nous as concocté un beau journal des sports, hein, comme chaque semaine. Et puis, je vais saluer aussi Marius, qui lui aussi a tremblé, mais finalement est content. Bonsoir, Marius.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir, tout le monde. Moi, j'ai pas beaucoup tremblé. Ouais, moi j'étais serein. Serein.
Enfin, à trembler les gonesses.
Ouais. Voilà. Sans doute. Très bien. Puis, on aura notre ami Stéphane Dezenclos au téléphone. Et puis, tiens, on aura un freestyler aussi au téléphone, puisque je sais qu'il sera donc le jour des 50 ans de l'Omnisport de Poigny-la-Forêt, dont nous allons parler. On salue d'ailleurs le présent, hein, Jean-Claude Béagnon, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais on lui enverra l'émission puis le podcast. Alors, très brièvement, j'aimerais savoir, Bernard, cette équipe des polymusclés, c'est en 1963 qu'elle naît. Comment c'est arrivé?
Ah ben, c'est, je crois que Belmondo, Drucker, Brasseur, et même Sacha Distel ont formé une équipe de copains, de gens d'artistes.
Ils avaient envie de jouer au foot.
Bon, Bebel était quand même un grand sportif. Hein, et c'était le gardien de but alors, officiel.
Il paraît que Belmondo, il faisait la programmation de ses films en fonction des événements sportifs. C'est-à-dire que s'il y avait Roland Garros, il évitait de tourner. S'il y avait un grand match de foot ou un grand match de boxe, pareil.
Oui, enfin,
bon, c'est ce qui a été dit.
Oui, non, mais il devait s'adapter un peu. Voilà. Oui, surtout la boxe et le foot.
Oui.
Mais non, mais Bebel, moi, je l'ai connu un petit peu parce que quand je jouais le roi des cons de Volinsky à la Gaîté Montparnasse en 1975, il est venu me voir parce qu'il était très copain avec Julien Guillaumard. Julien Guillaumard.
Grand comédien aussi, ouais.
Et il est venu me voir avec sa copine de l'époque, c'était la comédienne, très très jolie comédienne italienne. Comment qu'elle s'appelait déjà?
Ça, je ne pouvais pas vous aider, mais bon.
Enfin, toujours est-il qu'on a fait connaissance et puis on s'est revus plusieurs fois. Mais donc cette équipe a commencé en 63 et a eu évidemment beaucoup de succès parce que c'était des grosses vedettes à l'époque.
Oui, bien sûr.
Et dès qu'il y avait un match où ils étaient annoncés, bon, le public était là. Voilà. Mmh. Puis après, il y a eu une déviation. Donc, il y a eu les Pony Mixley qui ont continué à faire leur match. Et Vendroux,
Le Variété Club de France, qui a joué au Pony Mixley au début.
Oui, c'est-à-dire qu'il il a voulu faire un club élitiste où il prenait que des footballeurs de haut niveau pour les... Et qui les faisait payer, enfin, les gens qui recevaient payaient très cher aussi. Enfin, c'était pas du tout notre état d'esprit. Nous, l'état d'esprit a d'ailleurs bougé dans la mesure où, quand il y a des recettes, on se dirige vers les handicapés. Voilà, et ça, on le fait vraiment.
Et j'ai vu que ce club, il a été quand même aidé par deux journalistes.
Oui.
Et c'est peut-être un peu grâce à eux qu'on est là ce soir. Oui. Derrière le micro, il y a Roger Bastide, grand journaliste de presse écrite.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis Robert Chapat.
Oui, alors Bastide est carrément le fondateur. Et puis Chapat a soutenu. Voilà.
Donc, vous jouez régulièrement maintenant pour des œuvres caritatives. Comment ça se passe?
Alors, moi, j'ai été président pendant 20 ans, mais maintenant, ce n'est plus moi, c'est mon voisin.
Oui, alors on va l'avoir. J'ai vu qu'il y a eu comme président alors Francis Borrelli et Claude Brosset qui vous ont précédé.
Francis Borrelli, surtout... que lui s'est occupé aussi du PSG.
Ah ouais, ancien président du Paris Saint-Germain.
En même temps, un grand soutien financier et tout. Il avait des moyens. Il y avait aussi Daniel Echter, je crois.
Oui, grand monsieur aussi. Grand monsieur. Ouais,
ouais. Et alors après, comme vous dites...
Claude
Brosset, à un moment, est devenu le président. Et puis... à son décès, il a fallu trouver quelqu'un. Alors j'étais là, on m'a dit, bon, tu veux ou tu veux pas? J'ai dit, bah, oui, je veux bien. Voilà.
Ouais, mais vous aimez le sport. Hein. On en a parlé un petit peu. Fan de foot, de vélo, de tennis, tout.
Oui, oui. Puis maintenant, c'est un petit peu plus à la télé que sur le terrain. Mais enfin, c'est pas grave. Là, je sors, je peux vous dire que Slimovina, ma belle-fille, puisque c'est la femme de mon beau-fils, mon fils. Oui. Donc c'est ma belle-fille en même temps. Mmh. C'est normal.
Et puis bon, une question...
A gagné. Ah, c'est voilà, bien. Voilà, c'est elle bien. Est en quart.
Ouais.
Voilà.
Et une question qu'on a souvent dû vous poser, vous n'avez rien à voir avec le footballeur Jérémy Ménez.
D'abord, ça ne s'écrit pas pareil.
Oui, voilà.
Ménez, c'est pareil. Ménez, c'est Jérémy. Non, parce qu'on parle aussi de Pierre Ménez.
Ah oui, non, ça ne s'écrit pas pareil.
Mais des origines bretonnes, parce qu'on est... Ménez, ça veut dire la montagne en breton. Mon père est de Saint-Paul-de-Léon, c'est le pur Finistère, c'est le pur breton. Mmh. Je crois que Jérémy, la seule chose, il avait un caractère un petit peu difficile, je crois.
Oui, ouais.
Mais c'était un très bon footballeur.
Oui, bien
très,
sûr.
Très bon.
Qui venait de Longjumeau, en plus de l'Essonne.
Ouais, en plus. On va arrêter de dire du mal.
Alors, Azad, vous rejoignez ce club, ça se fait comment, votre arrivée dans ce club? Bon, j'ai lu un petit peu votre parcours. Vous avez œuvré dans des clubs de foot en Lorraine, hein, je crois savoir.
Effectivement,
c'est ça.
Moi je suis originaire donc de Moselle, du pays naborien.
Oui, vous allez avoir un beau derby l'année prochaine. Laisse lancer.
Exactement.
À nouveau. Ouais. Je suis désolé. Ligue 2.
On est content d'un côté, pas content de l'autre. Ouais. Alors, donc moi j'occupais un poste de président, un club de foot donc amateur, et nous avons réalisé un super parcours en Coupe de France. On a eu d'abord, on a eu la chance de battre la JO Auxerre en Coupe de France. À partir de là, je me suis noué d'amitié avec donc les membres donc de l'asso, avec qui on a organisé quelques événements, notamment un bel événement à Forbach où on a eu la chance de retrouver Bruno Ngoti, Sidney Govou.
Celui qui avait marqué pour le PSG dans la finale de Coupe des Coupes,
voilà,
hein, 96.
Ça
fait 30 ans là, vendredi.
Des anniversaires.
On n'a pas eu Patricia Casse.
Un grand bonjour à Bruno.
C'était lui, mec, 96.
On a eu donc aussi Fabrice Pancrate. On a eu quelques bons joueurs. Et on avait rencontré donc les anciens donc du FC Metz, avec qui on va très probablement faire le match retour prochainement.
Oui, alors je vous coupe avec un grand monsieur. Un grand dirigeant, Carlo Molinari.
Effectivement.
Un grand monsieur.
Il a marqué l'histoire à la fois donc, je dirais, du football français, mais en partie, mais aussi en Moselle, dans le football professionnel en Lorraine. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance et l'honneur de faire la rencontre des Pony Musclés, avec qui on s'est super bien entendu. et je me suis mis à œuvrer pour organiser des matchs caritatifs. On est contacté par des associations, par des clubs de foot, par des mairies en vue d'organiser donc des matchs de foot afin de pouvoir appeler alors des joueurs issus du monde du football, mais aussi
mais pas que
voilà, du cinéma, du théâtre, de la musique,
les journalistes aussi,
et les journalistes aussi, les journalistes. On se retrouve aussi avec des avocats aujourd'hui, avec des personnes ambitieuses qui viennent régénérer un peu le tissu associatif qui souffre depuis quelque temps, parce que le bénévolat qui n'a aujourd'hui pas de statut et qui appelle au statut aujourd'hui, on appelle à légiférer pour un statut du bénévole qui puisse donner un peu plus de punch et d'ambition. On avance sur tous les postes, il faut aussi avancer là-dessus. Et les Polymusclés 63, on a la chance...
Oui, 63, parce que c'est la création de l'année.
On a la chance d'avoir notre président d'honneur qui est là, qui brandit haut et fort les drapeaux, et on essaie de faire survivre cette flamme, parce qu'on a besoin aujourd'hui à la fois l'action caritative, l'action de bénévolat, l'action donc de l'organisation d'un match de foot. En l'occurrence, là, on va parler du match que nous allons disputer le 30 mai contre les anciens de l'USPONY. Le but, c'est de participer et d'œuvrer pour récolter de fonds pour une association.
Et là, ça sera pour Premier de Cordée.
Premier de Cordée, voilà. On l'avait fait, nous, à Forbach pour Raphaël Lorraine. On vient ici de manière prismique à la fois organiser un événement pour générer un peu une belle activité associative au niveau local. On vient aider une association et on vient aussi remonter un peu le niveau, entre guillemets. On essaie de participer et de montrer que les hommes de spectacle, de cinéma, de théâtre, d'art, de médias sont prêts aujourd'hui à donner de leur force, de leur temps. Et surtout, pas forcément le temps libre. Ce dont on disait, c'est lorsque vous donnez du temps que vous n'avez pas, c'est là qu'il est encore plus valeureux, encore plus important.
Plus précieux.
Plus précieux. Ouais, et être avec des Polymusclés, ça m'a permis aussi, bon, ça me permet de me retrouver.
Oui, bien
sûr. Et ça me permet de recentrer un peu les vraies obligations qui nous incombent à tout à chacun dans la vie en société. Tout
alors,
simplement.
Vous êtes combien dans cette association des Polymusclés ?
Alors, je dirais qu'en termes...
Parce que pour adhérer, bon, c'est une association, donc il faut prendre une cotisation, une licence, comment ça se passe ?
Alors, pour adhérer, en général, c'est pas sur recommandation, oui, c'est-à-dire qu'on vient voir un membre...
Coopter, quoi.
Voilà, coopter, oui, voilà.
Comme le variété.
On se présente.
Mais non, mais il n'y a pas de cotisation, je veux dire, d'entrée, mais chaque année, il y a une petite cotisation qu'on donne chacun, qui n'est pas très élevée, et ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est... d'avoir envie d'être avec nous et éventuellement de jouer, parce que ça se joue dans la très bonne humeur.
Oui, bah, j'en doute pas.
Qu'on perde ou qu'on gagne, on préfère perdre sur une bonne équipe que gagner sur des bras cassés.
Alors, monsieur Ménez,
oui,
je vous ai croisé, moi, en statut de footballeur, enfin en statut,
ah bon, ça va,
habillé en footballeur,
oui,
et on a un ami commun qui s'appelle Claude Stoff, qui s'occupait des copains d'abord.
Absolument.
Et je vous ai vu, moi...
j'ai joué pour eux aussi.
Tout à fait.
Oui.
À Limours, dans l'Essonne.
Oui.
Et je vous ai croisé dans les vestiaires du stade.
Ah oh ben dis donc.
Donc je peux témoigner que vous avez joué au foot.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Vous n'avez pas dit que vous savez jouer au foot.
Non, que vous aviez joué au foot.
Okay, d'accord.
Et j'ai un autre souvenir avec vous. Je vous ai croisé, je faisais mon service militaire à Duplex et vous êtes de la...
Oui, quartier, j'habite la Motte-Piquet.
Et je vous ai croisé, à l'époque, j'étais très jeune.
Oui.
Et c'est les souvenirs que j'ai de vous, ces deux souvenirs.
Oui.
Et je sais que... Alors, j'ai appris par l'intermédiaire de Philippe, que les Polymusclés existaient encore.
Oui.
Parce que pour moi, c'était fini, on n'en entendait plus parler. Mais j'ai des souvenirs des Polymusclés, d'ailleurs. Je vous ai ramené une photo de l'époque où nous, gamins avec Philippe, on voyait jouer au Parc des Princes, en ouverture de l'équipe de France, les Polymusclés.
Oh là là.
Avec Belmondo qui faisait le pirate dans les buts.
Ouh là là, ben ça... Alors le problème maintenant, c'est que... Bon, le problème, c'est aussi de demander à des gens très connus de bien vouloir passer du temps... bénévolement. Et ça, j'avoue que c'est difficile. Le Variété Club
Ouais, alors justement, il y a eu Jacques Bandrou a fait partie de votre équipe, et puis il crée, je crois, c'est en 71, le Variété Club de France. Pourquoi il était dans une autre optique, vous l'avez dit,
dans une optique financière.
Oui.
Dans une optique de gagner de l'argent. Mais maintenant, ça y est, ça, ça marche plus, ça.
Alors...
Mais ce que je voulais dire, c'est que Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire.
C'est pas grave. Ça va revenir, Bernard. Ça va revenir devant le micro.
Ce que je voulais dire, c'est que donc, le statut même du Variété Club de France n'est pas le même.
Ouais.
Eux, ils sont donc enregistrés au district 92, donc ils ont un numéro d'affiliation.
Oui. Et je crois qu'ils ont fait des matchs de Coupe de France il y a très longtemps.
Et nous, donc, nous sommes une association loi 1901. La direction même, au-delà des éléments qui sont mis en avant par Bernard, la direction même n'est pas la même.
Ouais, voilà. Oui. Alors, maintenant, vous faites combien de manifestations par an, à peu près caritatives? Comment ça se passe? Parce que j'ai vu, il y a le foot, mais il n'y a pas que le foot.
Il y a la pétanque. Pour les gens qui ont pris de l'âge comme moi, ouais, c'est un peu nécessaire.
On sera à la pétanque dimanche, Bernard.
voilà. Il y a une pétanque au Tertre. La pétanque du Tertre, près de Montmartre.
Ah oui.
C'est le grand quartier
de Paris.
Ouais, voilà.
Alors, comment ça se passe? Vous êtes combien de manifestations par an, à peu près?
Alors, je dirais qu'on est en moyenne 5 à 6 manifestations annuelles. Mmh. On a notamment, cette année, en juin, à nouveau, on participe donc au tournoi en divers. C'est un tournoi dans lequel des enfants en situation de handicap sont donc mis en situation sportive sur le terrain. Des petites équipes donc, de 8 contre 8. On passe un super moment. Mmh. On a donc des associations qui nous sollicitent régulièrement. Alors, on a un défi quand même, c'est de trouver assez de joueurs, parce que vous savez qu'il y a un grand nombre de manifestations associatives quand même, beaucoup d'associations, beaucoup de structures sont en place et beaucoup de galas. Donc, on essaie de faire avec les agendas de chacun.
Ouais. Alors, j'ai vu justement, vous faites beaucoup pour le handicap. Hein. J'ai vu, vous aviez, en allant sur votre site, vous avez à une époque récolté 170 000 francs qui a été renversé
à Fort Boyard.
Suite à un passage à Fort Boyard.
Fort Boyard.
Ah oui, vous l'avez fait.
Je l'ai fait, on a été très bons là.
C'était en quelle année?
Quelle année, c'est pas marqué sur votre site.
Enfin, moi, je pense que je vais avoir, ça devait il y a 30 ans.
Oui, ouais, c'est ça. Mais oui, parce qu'on peut, en plus, on parle en francs.
On parle en francs, et à l'époque. Ouais. Et à l'époque, on avait fait le record des recettes de Fort Boyard. Mmh. Ça a été dépassé depuis.
Ce qui a permis d'acheter des fauteuils.
Entre autres, bien sûr, des fauteuils de handicapés. Hein. Oui,
et puis, à travers les aides aux associations, vous avez aussi des personnalités qui œuvrent. Hein. J'ai vu Pierre Douglas, Tex, Patrice Drevet, Jean-Philippe Pustic, notre ami de la boxe qu'on connaît bien.
Oui.
Et puis Amara Simba aussi, ou Luis Fernandez.
Voilà, Luis Fernandez a même quitté, je crois, en gros. Les variétés, parce qu'il n'était plus d'accord du tout avec l'état d'esprit, il était beaucoup plus d'accord avec le nôtre. Mmh. Voilà.
Il a coaché, donc c'était le coach à Forbach. Ouais, à Forbach, c'était le coach du PSG, mais aussi le coach des polices.
Il sera pas là le 30 mai, il va être sollicité.
Malheureusement, c'est vrai que je l'ai sollicité, mais...
Ça tombe pas très bien, là. Ouais. Donc, vous faites la pétanque, mais vous faites aussi des associations culturelles, des manifestations culturelles.
Effectivement, alors on essaye de participer vraiment, on a une vision qui est transversale,
oui.
Elle est donc axée, basée spécifiquement sur le football, mais avec des opérations de type cohésion. Aujourd'hui, il faut prendre en considération les nouveaux formats adaptés aux associations d'aujourd'hui. Alors donc on va aller voir un petit peu dans d'autres disciplines, on va essayer de rendre ça de manière hybride, de faire participer d'autres associations à l'action des polymusclés.
Non mais pendant mes 20 ans de présidence, j'étais très ami avec un monsieur qui s'appelle Henri-Paul Ferbeuf, qui était lui-même un handicapé, mais qui habite à la ville de Cézanne, où on a fait deux fois par an des pièces de théâtre, où la recette allait essentiellement... Alors, on payait un petit peu les acteurs, parce qu'il fallait se déplacer, mais le gros de la recette partait au polymusclé pendant 20 ans.
Ouais. Donc sur Pogny-la-Forêt, y a une immense journée qui va être programmée. Hein. C'est pour les 50 ans de l'Omnisport. Alors j'ai eu Jean-Claude Béagnon au téléphone qui m'a dit surtout, t'oublie pas, il y aura un ballon dédicacé par Arsène Wenger. Donc Arsène Wenger,
spécialement, pas n'importe qui.
Oui, a dédicacé un ballon. Sinon, la fête des 50 ans, il y aura donc ce match. On connaît un petit peu les joueurs pour l'instant. Alors je sais que c'est compliqué.
Voilà. Ouais. On est mobilisé, donc chaque membre de l'asso, du bureau, a fait le nécessaire pour mobiliser. On n'a pas encore eu, si vous voulez, de liste déjà établie. Ça c'est Eric, le coach, qui va nous dévoiler ça.
Lelouch.
Eric Lelouch, voilà. Oui. Voilà, mm-hmm. avec son assistant Mohamed Abbas et aussi donc Bruno Cruet qui sera aux manettes mm-hmm. donc de 30.
Et vous dirigez un club comme ça dans cette optique-là, quand on a quand même dirigé des clubs qui ont été un petit peu plus dans la compétition, c'est une cure de jour.
je vais vous dire, moi je suis à la base issu d'un cursus juridique et je ouais. me retrouve dans le commerce. J'ai une vision un peu, je dirais, un peu large. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment une belle expérience, à la fois humainement parlant, oui. mais professionnellement parlant, et surtout de collaborer avec des artistes tels que Bernard et bien d'autres encore. Voilà, c'est un défi. Je suis avant d'être un amateur de sport et autres, je suis un homme de défi, donc j'essaie de relever le défi de l'associatif et du bénévolat avec cet aspect un peu média, un peu théâtre, un peu ciné, un peu footballistique mm-hmm. pour apporter de la joie de vivre et ambiancer tout ça.
Oui. Et ceux qui vous aident, c'est pas que des gens du spectacle, c'est pas que des gens du sport, c'est aussi des gens de la vie de tous les jours.
Oui. Oui, oui, effectivement. Effectivement, ce sont des gens qui se retrouvent à travers les personnalités membres de l'asso et qui veulent donner aussi.
Qui aiment le foot et qui aiment jouer au foot. Aussi. Et souvent, ils jouent très bien. Enfin, pas mal du tout, en tout cas. Mmh.
Bernard, vos meilleurs souvenirs de foot, c'est quoi ? Comment ça vient, la passion du foot ?
Ah ben, moi, c'est simple. Quand j'étais jeune, on était quatre garçons. Mmh. Dans une famille très catholique en banlieue parisienne. Et mes trois frères ont tous été décidés de faire du scoutisme. C'est bon, mais moi le scoutisme, ça, ce qui m'énervait, c'est le côté un petit peu militaire. Oui. Voilà. Ouais. Et alors j'ai dit à mes parents, non, moi c'est pas le scout, c'est le foot. Ouais. Et donc je me suis mis au foot à l'école avec les autres, et puis j'ai fait partie des équipes de lycée, des collèges et lycées où mmh. j'ai joué, mmh. mais j'étais pas un grand joueur, hein. Mais j'aimais ça, voilà. Oui. Bon, après, j'aimais ça. J'aimais aussi beaucoup le vélo, le
oui.
cyclisme.
Bah, souvent, ça va de pair. Hein.
Ah,
surtout quand on est breton. Hein.
Ah ben bah, oui, mes origines bretonnes. Et puis, je crois que j'avais des aptitudes au vélo que je n'ai pas développées, mais oui. je ne regrette pas, parce que quand j'ai assisté à des courses où je vois l'effort que font les coureurs pendant une heure, deux heures, trois heures, des fois, c'est épouvantable.
Ouais, alors, mais, d'ailleurs, vous très
je
copain,
regrette pas.
D'ailleurs, vous m'avez parlé d'une anecdote avec Bernard Hinault.
Ah oui, Bernard Hinault est un ami parce que.
Oui, grand monsieur.
Comment s'appelle le DTN ? Je le trouve plus.
Oui, c'est pas grave, on va le retrouver.
Germain, je crois que c'est.
Ouais, on va le retrouver, ouais. DTN de la Fédé de l'époque, ouais, en 93, quand Lance Armstrong est champion du monde.
Voilà. Ouais. Et j'ai été invité comme pas mal de fois sur des courses cyclistes. Là, c'était le Limousin. Et le Tour du Limousin était la dernière course avant le championnat du monde où ils finalisaient les coureurs qui allaient faire le championnat du monde. Et le DTN vient me voir et me dit, dis donc, ça te dirait de venir à Oslo au championnat du monde ? Je dis, moi, je mets tout de côté, je m'arrange, j'y arrive, mais je serai là, oui. Il me dit, bon, ben, attends demain. Et le lendemain, il vient me voir, bon, ben, écoute, c'est bon. Et c'est bon parce qu'il a vu avec tous les coureurs qu'ils étaient d'accord. Et donc, j'ai fait le voyage à Oslo, j'ai vu d'abord la course des femmes qui s'est passé tout merveilleusement avec un très beau temps et tout. Le lendemain, un temps épouvantable. Les abandons qui n'arrêtent pas, oui. hein, même chez les Français. Et Armstrong qui débarque un peu comme un inconnu, parce oui. qu'il n'était pas connu à l'époque.
À l'époque, c'était avant la maladie, hein, avant le cancer.
Oui,
hein,
oui, voilà.
Autre profil de coureur en plus. Hein.
Voilà, ouais. et donc, qui gagne contre toute attente, qui gagne ces championnats du monde. Mmh. Alors, j'ai retrouvé Hinault un peu plus tard dans un film de cinéma, parce que le réalisateur faisait un film qui s'appelle « Le Kepa sur la Vilni ». C'était un anagramme de « Panique sur la ville ».
Ah oui.
« Le Kepa sur la Vilni ». Et il voulait que Bernard Hinault, dans son film, fasse son propre rôle, le rôle d'un cycliste. Et alors, il a cru malin, à l'époque, de téléphoner à Hinault en disant « Oh, et voilà ». Alors, Hinault dit « Oui, pourquoi pas ». Il dit « Oh, écoutez, il y a un petit problème. La seule chose, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est simplement que vous jouiez une scène tout nu. » Alors,
il a dû être bercé par Bernardino.
Le blaireau n'est pas forcément très apprécié. Ah oui, il a raccroché immédiatement. Le film, c'est pas fait. Trois ans plus tard, ou deux, trois ans plus tard, le film se monte. Et là, je suis concerné. Je n'étais pas concerné avant. Et il me dit, je suis embêté parce que le rôle de Bernardino, il est toujours là. Et je n'ose plus l'appeler parce que j'ai fait une connerie. Et c'est là que je lui dis, bah écoute, moi je le connais un peu personnellement, je crois qu'il m'apprécie et tout, oui. On va tenter, et il a fait le film. Voilà, on va résumer.
Ah ouais.
Voilà. C'est resté un très bon ami, j'ai son téléphone.
Oui, moi aussi.
S'il faut l'appeler, il n'y a pas de problème.
Il a fait la scène tout nu finalement.
Non,
c'était une blague du réalisateur.
Ah,
il croyait qu'il allait le faire rire avec ça, mais faire rire avec ça, Bernard Hinault, c'est difficile.
Ouais. Donc, en dehors du Dino, les sportifs, vous les côtoyez, le foot par exemple, vous avez des rapports ou
bah, Mara Simba, il habite le quartier dans le 15e, à côté de chez moi, on se croise des fois. Mais c'est un être un peu
la bicyclette,
spécial. Elle est connue pour ça, pour sa fameuse bicyclette. Il n'est pas le seul maintenant, mais c'est un des premiers à l'avoir fait d'une manière efficace. Mm-hmm. Et c'était un joueur de très haut niveau, mais il ne s'investit pas. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? J'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, j'ai son numéro aussi, mais je ne vais pas aller plus loin parce que c'est...
Ouais. Et les matchs, vous les regardez actuellement? Donc on parlait du Paris Saint-Germain, on va en parler tout à l'heure.
Ah ben, du Paris Saint-Germain, Bayern,
grand fidèle du PSG, je suppose.
Je l'ai regardé parce que je ne l'ai pas regardé le premier, je n'ai pas pu. Mais...
Ah, c'est dommage, c'était plus beau.
Oui, il y avait cette remontada là. Disons qu'ils ont failli se faire remonter. C'est se faire remonter comme ça, de 5-2 à 5-4.
C'est le Bayern de Munich, en face, quand même.
Ouais. Alors, c'est quand même le club de Ribéry.
Oui.
Moi, je suis toujours dans cette tête-là, il y a une star là-bas.
Oui.
De Lizarazu.
Franck Ribéry. Oui. Lizarazu aussi?
Ah oui.
Ah, je sais pas.
Ouais, Bayern, le Bayern, ah oui, c'était un des. Ah, il bon. Était même là avant Ribéry, Lizarazu.
Ah, d'accord.
Et je crois même qu'il y a Willy Sagnol aussi qui a joué au Bayern.
D'accord. Mais c'est la grosse équipe d'Allemagne.
Et il y a une équipe qui vous a marqué? Plus qu'une autre.
Non, moi, il y a une.
Je sais pas, France 82, 86, 98. Il y a Jacques. On a connu la Jacques.
Moi, il y a d'abord, quand j'étais enfant, il y a une équipe qui me marquait, une équipe de France. C'était l'équipe de Raymond Coppa.
Ah oui. Juste Fontaine.
Juste Fontaine a joué. Ah non, il n'a pas joué avec nous. Il est venu. Il est venu. Raymond Coppa a joué un tout petit peu dans un match. Mm-hmm. Et j'ai discuté beaucoup avec lui. Moi, personnellement, du siècle dernier, c'est le plus grand joueur français qu'on ait jamais eu. Pour moi, Raymond Coppa, c'est le summum. D'ailleurs, c'est le premier à avoir eu le Ballon d'Or.
Oui.
Et c'était un monsieur, c'était un gentleman, petit gabarit, à qui, pour piquer le ballon, c'était la croix et la bannière.
C'est les pires.
Et juste Fontaine lui doit beaucoup. Parce que c'est souvent sur une passe de Fontaine, de Coppa, qui marque le but. Ouais. Voilà.
Et les générations suivantes?
Et alors, génération suivante, Platini, j'ai connu Platini, parce que Platini avait un club pour formation de jeunes, pas à Canet en Roussillon, juste à côté.
Saint-Cyprien,
à côté de Perpignan.
Ouais.
Et j'ai mon fils qui a été faire un stage là-bas. Mmh. Et donc, on a la photo de Platini qui venait avec Jésus.
Et puis Azad, vous qui avez été en Lorraine, Platini, c'est Jeuf.
Ouais, c'est Nancy.
C'est Nancy.
Effectivement,
hein.
C'est une partie des légendes aussi.
Et les Verts de Saint-Etienne, il y en a un représentant.
Bah, les Verts, on a Rocheteau qui est venu plusieurs fois jouer avec nous. Oui, bien sûr. Mmh. Et puis, mon plus grand souvenir restera toujours la Coupe du Monde de 98.
Oui, bien sûr.
C'est
la première. C'est la première qu'on ait gagnée en France. En plus, c'était loin d'être évident.
Comment il s'appelle celui qui est le chroniqueur, vous me disiez, de radio tout à l'heure.
Vendroux.
Non, celui qui...
Thierry Roland.
Thierry Roland disait en commentaire, je peux mourir. J'ai vu ça, parce que c'était quand même contre le Brésil, et 3-0. 1-1, 2-3. Ouais. Mmh. Formidable.
Et maintenant, comment vous vivez les matchs? Comment vous vivez cette génération? Bon, ça a bougé, ça a évolué. Et... les confrères journalistes disent que bah, aujourd'hui, c'est un petit peu moins... c'est plus compliqué.
Moi, je suis très gêné par le côté financier. Je suis très gêné parce que quand vous parlez avec Coppa ou Fontaine ou Piantoni, et vous savoir dans quelles conditions ils jouaient, et aujourd'hui, les millions qui se baladent dans le rue, ça me gêne.
C'est compliqué maintenant.
Donc, Azad, vous, donc, comment on fait? On vous appelle? Si on veut venir n'importe quelle association, ils vont sur le site internet.
Ils vont sur le site internet, ouais. sur Instagram ou sur Facebook. Et puis on nous écrit régulièrement, on nous sollicite. Et lorsqu'on peut y répondre, bon, on y répond tout le temps. Lorsqu'on peut nous répondre positivement, et ben, on le fait. Sinon, on apporte des solutions ou on essaie de s'organiser. Mmh. Voilà, tout simplement.
Et après, c'est vous qui contactez l'autre association caritative. Par exemple, Premier de Cordée, qu'est-ce qu'il
y a? Alors, non, là, dans ce cas-là précis, c'était déjà fixé.
D'accord.
Alors, semblerait-il, les autres années, donc ce n'est pas la première organisation, Jean-Claude me disait qu'ils avaient déjà fait donc, rencontrer donc, le Variété Club à l'époque.
Oui, et, plusieurs fois. Ouais.
Voilà. Et dans ce
c'est
cas...
C'est pas Jean-Pierre Papin qui était derrière ça?
Non, c'est Neuf de Cœur.
Neuf de Cœur, oui.
Effectivement. Et donc voilà, et donc, il nous arrive effectivement de contacter aussi des associations, dans notre cas comme en Moselle, on avait à cette époque-là, contacter Raphaël Lorraine. Mais voilà, dans ce cas précis, c'est lui Espoigny qui a contacté Premier de Cordée.
Alors justement, donc on va quand même rappeler que donc la journée elle commencera donc à 10h hein, jusqu'à 17h30. Il y aura une démonstration d'initiation et rencontre de pick and ball. C'est le sport à la mode. Hein. Ouais. Donc ça sera donc une grosse démonstration durant toute la journée et on remettra ça le lendemain, je sais le dimanche matin. Après à 13h45, on l'aura tout à l'heure. Il y aura un champion de freestyle. Ouais. C'est assez exceptionnel. On va l'avoir tout à l'heure. C'est Mathieu Piron. Et puis donc ce grand match à partir de 14h30 qui opposera donc les Polymusqués 63 aux anciens de l'US Poigny-Laforêt. Après, bah, 16h30, il y aura un pot d'amitié. Et puis, 18h, la finale de Ligue des Champions. Imaginez si en plus il y a la victoire du PSG. La fête va être belle le soir à partir de 20h30.
C'est Arsenal, là.
Pour lui faire compagnie.
La victoire, elle sera là.
Oui, bien sûr.
On ne peut pas être en. Ouais. Là, il y a Hongrie en même temps. Ouais, hein. C'est à Budapest.
Oui. Et vous, votre équipe type?
Alors moi, mon équipe type...
votre équipe favorite
moi, c'est le PSG, hein, c'est Paris Saint-Germain. Ah, oui. Et puis quand on parle d'équipe, de souvenirs, c'est France 98. J'avais 16 ans à cette époque-là. C'était quelque chose d'exceptionnel.
Black, blanc, beurre.
Non, puis ce qui est remarquable, nous, on l'a connu dans ces conditions-là, c'était toute la campagne qu'il y avait contre Aimé Jacquet.
Voilà.
On allait à Clairefontaine.
C'est incroyable.
Mais c'est souvent, dans les pires des conditions où on va chercher les dernières ressources au fond de soi. Et le lion surgit toujours dans l'ombre de la savane.
Ça a été au-delà du football. Ça a été au-delà du football. C'est mais ça qui était un petit peu compliqué. Ce qui n'a pas été pareil pour Deschamps. Hein. C'était un petit peu moins compliqué.
Deschamps est arrivé plus dans un fauteuil.
Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune certitude quand même. Hein. Et puis ça s'est joué souvent un petit peu ric-rac, la séance de tir au but, le but en or. Il n'y avait rien qui était garanti. Donc après, à la finale, il ne pouvait plus rien arriver.
Il n'y avait rien qui était garanti. Mais premièrement, Aimé Jacquet était le genre d'entraîneur qui faisait passer devant le collectif avant l'individuel. Il a insufflé ça dans une équipe où il y avait des grosses individualités. Des fortes individualités.
Et vous savez ce qu'il nous a dit un jour? Non. Je ne vais pas sélectionner les 23 meilleurs footballeurs. Je vais sélectionner les 23 meilleurs hommes.
Mais Luis Enrique fait un peu la même chose au PSG. C'est attention.
Oui, parce qu'il y avait un collectif, il fallait vivre ensemble pendant un mois et demi, et la moindre petit grain de sable, ça peut faire effectivement dérailler.
Ouais.
Donc, vous, c'est France 98, vous espérez un jour revenir dans le foot? Alors, allez, alors, j'ai des questions de journaliste.
Il y a de la place, il y a de la place.
Je dirais qu'aujourd'hui, le défi que rencontre le monde associatif, il est rencontré aussi par le monde du football. Par le monde du football qui très souvent essaye d'opérer un mimétisme sur le football professionnel, mais ne passant pas par les chemins adaptés, c'est-à-dire que le financement des clubs de foot, les suivis, les tenues comptables, les tenues bilan. Lorsqu'on veut monter un niveau, il faut monter... D'une seule voie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clubs qui se concentrent sur les premières équipes, hein, les seniors, et qui vont un peu délaisser les équipes jeunes. Voilà. Bon, pourquoi pas, si on se rapproche d'un club parisien, pourquoi pas faire un partenariat entre les polymusclés et un club parisien.
Pourquoi pas,
pas pour pouvoir apporter une dynamique au niveau local. On s'était rapproché d'un club dans le 15e, CP15, bon, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer, mais qu'on rencontrera très probablement prochainement, mais se rapprocher d'un club de foot et pourquoi pas, au-delà de partir sur un défi personnel, le poste de président de club de foot aujourd'hui est un club qui est vraiment...
C'est usant, c'est pesant,
ça piège aussi souvent l'homme. Et je dirais que c'est un poste qui très souvent, une fois qu'on vous appelle Prési, on a des ailes qui poussent dans le dos.
Allez, on va marquer.
Des fois, on retombe vite sur terre.
Ouais. Effectivement.
On va marquer une petite pause musicale et ensuite, on aura le journal des sports, on aura le coup de cœur, coup de gueule et puis voilà. Ensuite, aussi un gros point foot, mais on aura notre ami du freestyle auparavant. La pause musicale.
Bernard Ménez. Jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais chanter. Un peu d'alcool, pas trop d'imbibé. Biberon à 90 degrés, pas t'affoler, je veux pas te saouler. Bien que tu sois une jolie poupée. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais rêver. Ma jolie fleur exotique dans une Saint-Denis. Mon oiseau de la Martinique a fait son nid. Je commence begin, je danse la begin. Je bois du punch, ça me donne du punch. Passe-moi le poivre et la cannelle, c'est bon, c'est fou. Ça va faire des étincelles dans les bambous. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais danser. Ah, faut pas me laisser dans cet état-là. Je fais des bêtises dès que tu n'es pas là. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand je pense à toi, toi. Tu ne penses qu'à mon petit doigt. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, viens me retrouver. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais danser. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais rêver. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais danser. Oh oh oh, jolie poupée, sur mon doigt coupé.
Voilà, Bernard, on a voulu vous faire plaisir, cette chanson.
C'est gentil, je l'ai chanté encore il y a 8 jours du côté de Bordeaux.
Oui. Ça fait un tabac en tout cas, ça fait un succès.
C'est-à-dire que ça a été un coup de cœur. Hein. Oui. En gros, j'avais fait un premier 45 tours en 77. À l'époque, c'était la campagne anti-tabac de Simone Veil.
Oui.
Et la maison Polydor me propose de faire un 45 tours autour du thème le tabac. Et Jacques Lanceman, le parolier de Jacques Dutronc, m'écrit deux chansons, et dont une c'est « J'aime pas les filles qui fument ». Alors bon, on fait avec ça. J'allais dire c'était le verre à moitié vide, à moitié plein. Bref, c'était ni un échec, ni un gros succès. Je m'étais dit, bon, ça suffit, on en a fait un, on est content, on arrête les frais. Sauf qu'on me propose tout le temps. Et 7 ans plus tard, un parolier qui me proposait tout le temps des trucs, comment il s'appelle, Marc-Fabien Bonnard, me fredonne ce jolie poupée au téléphone. Et je lui fais, ah, ça, pourquoi pas? Alors il tombe des nues, il dit, mais c'est pas possible. Alors il téléphone dans mon dos pour savoir, à ma femme, c'est pour savoir si j'étais dans un état normal. Elle lui a dit, bah écoute, si t'as dit ça. Et alors, on l'enregistre, on fait tout, et on fait un petit peu des radios, télé, et Guy Lux me prend un peu par amitié. Et puis il met la chanson au générique de fin. Enfin, en fait, la chanson a été condamnée. Mais à la répétition, il a trouvé que c'était beaucoup mieux qu'il pensait et il l'a mis générique du début. Ouais, ouais. Et là, ça a commencé, ça a explosé, les ventes ont commencé. Et en l'année 83-84...
Oui, c'était 83, là.
Fin 83, ouais, ouais. Pendant les fêtes de Noël, je vendais comme Karen Cheryl. Oui. Et deux mois après, j'étais disque d'or.
Oui.
Et j'en ai vendu 1 million à peu près. Et il y en a un qui n'était pas content. C'est Michael Jackson.
Ah.
Parce que en mars 84, j'ai été numéro 1 au hit parade. Et Michael Jackson était numéro 3. Et ben, il n'a pas supporté, il en est mort. Mais beaucoup plus tard.
Oui, mais beaucoup plus tard. Alors, avant d'avoir donc Théo, on va avoir Mathieu Piron. Bonsoir Mathieu. Allô?
Ah. Oui, je suis là.
Ah, bonsoir. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, vous allez donc participer donc à cette fête de Poigny-la-Forêt. J'ai envie de vous dire, tout d'abord, parlez-nous un peu de vous. Comment vous êtes venu au freestyle? Parce que vous avez dû d'abord jouer au foot.
Oui, alors je suis passé par le foot plus jeune. J'ai joué dans un petit club pour le loisir.
Oui.
Et c'est plus tard, du coup, à mes 16 ans, que j'ai découvert le freestyle football. Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé. Donc, c'était en 2010. Donc, ça fait bientôt 16 ans là, que je pratique la discipline. Et dès le premier jour, j'ai été pris de passion.
Ouais. Et pourquoi plus que le freestyle que le foot classique?
Alors, ce qui m'a plu vraiment dans le freestyle football, c'est la partie artistique et créative qui est vraiment... vraiment présente, parce qu'en fait on peut faire concrètement vraiment ce qu'on veut avec le ballon.
Ouais.
On n'y a pas de limite, on peut créer ses propres gestes, et c'est vraiment ce côté-là qui m'a plu là-dedans.
Oui, alors aujourd'hui vous êtes à la fois et un artiste et un sportif de haut niveau.
Voilà, c'est ça, ça combine vraiment ces deux aspects. C'est une discipline qui est vraiment et à la fois artistique et sportive.
Mais ça ne vous permettait pas de subtiliser le ballon aux autres de...
Alors ça, effectivement, ça peut donner un certain contrôle de balle. Après, ça, souvent, on nous pose la question si un freestyler est bon au foot. J'ai envie de dire pas forcément. Ça peut donner un meilleur contrôle du ballon, mais ça fait pas tout.
Mais Coppa aurait peut-être été un bon freestyler.
Ouais, ouais. Ah bah Maradona certainement.
Aussi. Lui, il a la main de Dieu, ouais, lui, c'est encore autre chose.
Ouais, ouais. Hein. Ouais, alors effectivement, donc aujourd'hui, combien de temps vous passez par jour à vous préparer?
Alors les entraînements, c'est quasi quotidien, et c'est environ 3 heures d'entraînement par jour, 2 à 3 heures d'entraînement par jour.
Ah oui.
Donc voilà, c'est quand même assez intense, ça demande une certaine pratique et beaucoup de persévérance.
Et puis surtout beaucoup de concentration, et puis il faut savoir se renouveler, c'est ça la difficulté?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, et pour se renouveler, moi je m'inspire énormément d'autres arts, notamment de la danse. Et de plein d'autres arts qui vont m'inspirer et m'aider à trouver mes propres mouvements.
Ouais, oui. Et ça vous arrive parfois d'être un peu fou, d'innover lors d'une représentation ou lors d'un événement?
Pardon, j'ai pas compris ça le début
vous,
de la question.
Parfois, ça vous êtes un peu fou, vous innovez lors d'une représentation, vous dites tiens, c'est la première fois, c'est le premier. Voilà, je vais faire ce mouvement pour la première fois.
Oui, alors souvent, ça va surtout être à l'entraînement que je vais trouver des nouveaux mouvements, mais c'est vrai que des fois, comme il y a des parties de show qui sont aussi improvisées, des fois on se surprend soi-même lors de compétitions ou de show. À faire un mouvement pas exactement comme on le souhaitait, mais du coup qui amène un nouveau geste ou une nouvelle idée. Donc ça peut se surprendre, ça peut être surprenant même pour soi-même.
Oui, alors dans un show, ça dure combien de temps à peu près, votre show? Il va durer combien de temps, par exemple, à Poigny, il va durer combien de temps?
Là, je pense qu'il durera 10 à 15 minutes, quelque chose comme ça, mais je ferai plus un show du coup où je présenterai aussi un petit peu la discipline au début, avec le micro et le ballon.
Bien sûr.
Pour montrer un petit peu, pour illustrer un petit peu mes propos. Et après, on passera à un show plus dynamique sur de la musique et interagirai aussi sûrement avec quelqu'un à la fin. Donc après, en ce qui concerne les shows, ça peut vraiment varier au niveau du temps. Des fois, ça va être un show juste de 2 minutes. Des fois, ça va être du 15 minutes. Ça dépend le contexte.
Oui, et les spectateurs, comment ça se passe au niveau des spectateurs? Parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, ou vous arrivez à faire le vide ou pour bien vous concentrer, ça se passe comment?
Oui, en général, c'est quand même une discipline qui plaît et qui est peu vue, enfin, qu'on a peu l'habitude de voir en vrai. Donc c'est vrai que souvent ça interpelle pas mal. Et après, au niveau du public, oui, je pense que les gens, des fois, il y a des moments où ils vont avoir envie de crier, de s'extasier. D'autres moments, ils vont plus contempler, être dans le silence. Donc voilà, justement, c'est avec ça qu'on essaye de jouer aussi dans les shows, changer les dynamiques et créer des moments différents.
Et vous, ça vous transcende, ça vous galvanise, le public?
Et pardon?
Ça vous transcende et ça vous galvanise, le public?
Tout à fait, tout à fait. Bah, moi, j'adore la scène et c'est vrai que un public, quand on a un public devant soi, on a envie de partager, on a envie d'échanger avec eux et de rendre ça en connexion. Donc ça peut tout à fait me transcender, comme vous dites.
J'avais une question. Vous avez parlé de différents arts desquels vous vous inspirez. Quels étaient ces arts? Moi, je pensais peut-être à la capoeira. Est-ce que ça a été une de vos inspirations et sinon, quelles ont été vos inspirations également?
Oui, alors la capoeira, oui, j'ai toujours trouvé ça très beau, par exemple la capoeira. Il y a effectivement des gestes dont je me suis un peu inspiré de la capoeira, mais la plupart de mes inspirations viennent beaucoup de la danse, notamment du breakdance.
Du breakdance, oui, bien sûr.
Je me suis beaucoup et souvent entraîné avec des danseurs, et c'est vrai que du coup, ça m'a toujours inspiré et aidé à trouver certains mouvements avec le ballon.
Oui, bien sûr. Et puis, il faut vivre, je veux dire, une vie d'athlète de haut niveau. C'est-à-dire que faut faire attention dans son quotidien à tout ce qu'on mange, à tout ce que...
Oui, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que moi, je fais quand même plutôt attention à mon hygiène de vie. Et pour moi, c'est aussi un moyen de durer dans le temps et de pouvoir performer au mieux le plus longtemps possible. Donc, pour moi, c'est important de prendre soin de mon corps. Et puis, c'est un mode de vie qui va avec.
Oui. Ça arrive qu'on se blesse dans le freestyle? Ça peut arriver? Que l'on se blesse?
Oui, alors j'ai déjà eu des grosses blessures. J'ai déjà eu des grosses blessures et c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas sans risque. Bien que ce ne soit pas forcément le sport le plus risqué, mais c'est vrai que selon chacun, après chacun a un freestyle un peu différent, mais on peut risquer de se blesser. Après, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à bien s'échauffer, bien s'étirer, bien faire attention aussi aux articulations, le renforcement. Là, par exemple, je fais du renforcement très régulièrement depuis 2-3 ans, et pour moi, je vois vraiment la différence avec ça aussi.
Oui. J'ai deux petites questions. La première, c'est vous faites ça toujours seul ou vous faites à plusieurs des exhibitions? Et la deuxième chose, rapidement, comment vous choisissez vos musiques?
C'est des très bonnes questions.
On voit l'artiste. Alors,
merci.
On voit l'artiste là.
Ouais, c'est des questions qu'on nous pose pas forcément tout le temps. Ouais. Les musiques aussi, par exemple. Mais du coup, pour répondre à la première question, déjà, alors c'est le freestyle football, c'est une discipline qui de base est plutôt individuelle.
Oui.
Mais justement, nous, depuis vraiment pas mal d'années, on développe aussi beaucoup de choses en groupe. Parce que j'ai un groupe aussi. Et nous, on a envie de développer aussi ce côté-là parce que c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup trop peu dans notre discipline. Et pour moi, il y a un énorme potentiel aussi à pouvoir s'exprimer à plusieurs et faire des chorégraphies avec le ballon à plusieurs. Voilà, c'est illimité, il y a un gros potentiel. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de développer aussi de notre côté. Donc moi, je dirais que c'est 50-50. C'est pour moi, en ce qui me concerne, c'est des entraînements solo et des entraînements en groupe.
Oui.
Et après, concernant les musiques, moi, du coup, c'est pareil. Je suis vraiment très ouvert à différents types de musique parce que justement, ça va aider une me permettre de travailler des mouvements d'une manière différente selon la musique, selon l'énergie de la musique. Mais aussi, du coup, de transmettre quelque chose de différent auprès du public. Donc, on peut passer sur des musiques classiques comme jazz, comme hip-hop. Enfin, voilà, il y a une grande variété de possibilités. Et pour moi, c'est un vecteur très, très important dans ma pratique, la musique.
Azad ?
Alors, mon cher Mathieu, bonjour, Azad Tanak, ouais. Micro. Alors, déjà, tiens à vous féliciter pour cet engagement, cet engouement, cette énergie qu'on ressent dans votre élocution. Et je tiens à vous dire qu'on serait heureux de vous compter parmi les polymusclés pour hisser haut et fort le drapeau de la solidarité associative, socio-associative, sportive, et vous dire que si vous voulez fouler le ballon avec les polys le 30, vous êtes bien sûr bienvenue dans le vestiaire.
En plus de sa démonstration.
En plus de la démonstration, il sera accueilli avec les honneurs, avec les jongles dans le vestiaire. N'est-ce pas, Bernard ?
Ah et puis on lui passera le ballon. Hein. Attention.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi de pouvoir être là aussi cette journée du 30 et de participer à cet événement.
Oui, parce que vous voyagez dans le monde entier. Hein. J'ai regardé un petit peu votre site, Bernabeu, Paris 2024. Vous êtes vraiment dans tous les stades du monde.
Oui. J'ai pas mal voyagé, et aussi avec mon groupe, du coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super enrichissant aussi pour moi de faire des voyages et rencontrer des gens de pays différents, d'horizons différents qui ont des choses à apporter chacune. Donc, c'est quelque chose qui m'enrichit beaucoup et qui enrichit mon art aussi en parallèle.
Bah oui, en avant-première des matchs ou durant les mi-temps, je sais que vous intervenez. Alors, vous avez un site internet, on peut vous joindre pour vous convoquer, hein, pour des manifestations. Vous faites aussi du coaching et des démonstrations.
Oui, que j'ai, c'est show comme spectacle, show-du-6freestyle.com.
D'accord. Et puis, vous utilisez naturellement aussi les réseaux sociaux. Hein.
Oui, exactement. Bah, je suis quand même très présent sur la plateforme Instagram. C'est celle où je suis le plus présent. Mm-hmm. Et c'est mathieu.tsunami. Donc, Mathieu, un seul T, et tsunami comme la vague.
Oh.
Ah, d'accord.
Ouais. Ça fait un peu peur, ça.
Ouais. Bon, là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vous allez où avant d'aller à Poigny, donc à la fin du mois de mai?
Alors là, j'ai un petit creux un peu tranquille là, cette semaine. Donc là, je suis sur Lyon. J'habite sur Lyon. J'ai grandi en région parisienne, mais là, je suis sur Lyon. Donc là, je vais plus me focaliser justement sur mes entraînements, bien reprendre ma routine avant que l'été se charge, parce qu'il y a déjà pas mal de dates, surtout pour juin et juillet, où ça commence à bien se remplir.
Et vous connaissez Jean-Michel Aulas ou pas?
Pas personnellement, mais...
il voulait être maire, là.
Oui, bah oui.
Ouais, c'est bon, raté. Enfin bref.
C'est raté. Merci en tout cas, puis nous, on se voit donc le 30 mai, à Poigny-la-Forêt. En tout cas, immense merci. Hein, et puis,
avec grand plaisir. Oui.
Merci beaucoup.
Et puis rendez-vous le 30 mai.
Merci
en tout cas.
Merci.
Passez une bonne fin de journée, merci, au revoir.
Merci. Voilà pour le freestyle. Bah, maintenant, on enchaîne sur
très sympa,
donc, ouais, le journal des sports d'un week-end où on va commencer avec la moto.
Oui, merci Philippe. On ouvre ce journal en fait par de la moto GP. Donc, sur le célèbre circuit du Mans, George Martin s'impose et retrouve surtout le goût de la victoire. L'Espagnol qui n'avait plus gagné depuis 2024 devant son coéquipier Marco Bezzecchi pour le doublé d'Aprilia. L'Italien n'a plus qu'un point d'avance au classement pilote. Toujours en automobile au Portugal, première victoire pour l'écurie Hyundai en rallye WRC et surtout première course qui échappe à Toyota. Thierry Neuville s'impose sur l'épreuve lusitanienne, le Belge devant Solberg et Elfyn Evans. L'Anglais conforte tout de même sa place de leader au classement pilote et creuse l'écart avec son dauphin Katsuta. Petit mot de cyclisme maintenant et la suite du Tour d'Italie. Déjà vainqueur de la première étape vendredi, Paul Magnier s'est de nouveau imposé ce dimanche au sprint lors de la troisième étape du Giro. Donc.
Ah, je l'ai vu, alors c'était un pneu, hein.
Ça s'est joué à pas grand chose. Le Français termine devant Jonathan Milan à rien du tout. Et Dylan Groenewegen. Au général, Guillermo Silva conserve son maillot rose.
Ça promet pour le Tour de France. Hein.
Ah ben oui, un Français qui va peut-être faire des exploits. on attend que ça. On a un autre dans une autre discipline. Comment il s'appelle?
C'est Xas?
Non, dans le cyclisme, oui. on a l'autre là, le jeune là,
on a Sexas aussi.
Oui, voilà, Sexas.
C'est ce que fait des merveilles sur les autos, qui est pressenti pour concourir.
Ça fait deux
un qui grimpe, un qui sprint, donc ça va.
Ouais, voilà.
De quoi marquer des points. Et chez les femmes, c'était la fin hier de la Vuelta, donc du Tour d'Espagne. Paola Blasi s'impose devant son public avec 24 secondes d'avance seulement sur Anna van der Breggen. Belle performance française de Marion Brunel, la française monte sur le podium avec 49 secondes de retard seulement sur l'Espagnol.
Je l'ai pas vu ça, troisième. Donc,
ouais, sur le podium.
Et était notre vedette là.
Oui, Prévost, elle a fini dans les 30 premiers.
Ouais, d'accord. Mais elle a d'autres objectifs, je pense, que le tour féminin de France.
Ouais,
je pense que c'est. Ouais.
Allez, on passe au tennis de table. Pas d'exploit malheureusement pour l'équipe de France, une nouvelle fois battue par la Chine en demi-finale des championnats du monde
les
à Londres.
Les frères.
Deux ans après une défaite déjà à Busan en finale, la France ne parvient toujours pas à battre la nation numéro 1 et ramène la médaille de bronze.
Et Théo, je voulais réagir parce qu'apparemment il y a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux pas très bienveillantes à propos d'Alexis, à propos des frères Lebrun.
Ah
ça,
bon
ça m'a bien énervé. Oui, oui. Ouais, tout à fait. Info de nos confrères de sport tricolore. Voilà.
Alors ils connaissent vraiment pas le ping-pong parce que table. Parce que moi j'en ai fait.
Oui.
C'est aussi une discipline que j'ai même joué en double avec un champion du monde français.
Secrétin?
Non, Secrétin Purcard, c'est des amis personnels.
Oui.
Secrétin, c'est celui qui m'entraînait.
Ouais.
Vincent Purcard aussi un peu, ils avaient un numéro à deux formidable. Non.
Jean-Philippe Gatien.
Voilà. J'ai fait en double avec Jean-Philippe Gatien quand même. C'est pas la.
Ouais. Très sympa Jean-Philippe.
Sympa, puis champion du monde.
Ouais, en plus. Ouais.
Ouais.
Et sport de combat maintenant, et un petit séisme tout de même à l'UFC 328. Shane Strickland inflige sa première défaite en carrière à Ramzat Chimaev. L'Américain s'est imposé sur décision partagée des juges et récupère la ceinture des poids moyens à 35 ans. On passe au sport collectif et on commence par le rugby et la 23e journée de top 14. Défaite 26-24 du Racing 92 face à La Rochelle. De son côté, le Stade français s'impose largement contre Lyon, victoire 59-17. Au classement, le Stade français est 4e et le Racing pointe à la 7e place. Et dans le tournoi des 6 nations, les Bleus étrillent l'Écosse 69-28 et joueront donc un dernier match comparable à une finale dimanche prochain face aux Anglaises à Bordeaux. Mmh. Basket maintenant avec l'élimination de Monaco en Euroleague en quart de finale. Le club de la Principauté n'a pas pu rivaliser avec l'Olympiakos, défaite cette fois-ci 105-82. Surtout Monaco, en proie à des difficultés financières, a peut-être tiré sa révérence en Euroleague. En Betclic Elite 29e journée.
Pour rester sur le basket, vous savez ce qui vient d'arriver? Le grand français,
Wembanyama, il a eu.
Il paraîtrait. J'ai pas vu le geste. Mais
il a mis un gros coup de coude à un adversaire. Pendant un match.
Volontaire, c'était.
Il a semblé sur les images un petit peu volontaire, en tout cas, empli de frustration par rapport au geste de l'adversaire, justement.
Je l'ai vu avant qu'il quitte la France parce qu'il était à Levallois.
Mmh. Oui.
Je l'ai vu jouer à Levallois, moi. Mmh. Et j'ai laissé juste son dernier match avant qu'il parte aux États-Unis.
Et donc Betclic Elite, 29e journée, victoire. Donc justement, du Paris Basket sur Monaco, 123-95. Nanterre s'impose également sur le parquet de Dunkerque, 85-80. Au classement, Nanterre reste deuxième derrière Monaco et devant le Paris Basket. Et en finale de championnat féminin, Bourges domine Basketland à domicile, victoire 67-49. Le match retour, c'est ce vendredi à 20h45. Allez, on passe au handball. Désormais, pas d'exploit pour le HBC Nantes en Ligue des Champions, battu une nouvelle fois par Barcelone en terre catalane. Défaite 31-21. Synonyme d'élimination pour les Nantais dans ses quarts de finale. 27e journée dans le championnat masculin, courte victoire de Tremblay 31-30 face à Aix-en-Provence. Le PSG s'impose 34-23 contre Célestat. Au classement, Paris toujours leader devant Nantes et Tremblay est 8e. Et 23e journée dans le championnat féminin, victoire de Stella Saint-Maur 40-29 face à Sambre Avesnois. Le Paris 92 chute à domicile contre Plantecuc, défaite 31-29. Au classement, le Paris 92 est 8e et Stella Saint-Maur 12e. Et on referme ce journal des sports comme d'habitude par du volley et le sacre de Montpellier. Vainqueur pour la 9e fois du championnat de France, les Montpelliérains ont une nouvelle fois dominé Poitiers 3-7-0 dans le match retour.
Merci Théo pour une nouvelle fois donc ce journal des sports donc très dense et très abondant. Alors comme chaque semaine pratiquement, on a le droit à un coup de cœur, coup de gueule hein, sur ce week-end de sport. Je vais donc saluer notre ami Stéphane Sorano. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Sylvie, ouais. Bonsoir à tous.
Bon, alors bonsoir. Ton coup de cœur, ton coup de gueule, on t'écoute.
Eh bien j'ai un coup de cœur, un coup de gueule sur le même sport. Pour changer, parce que d'habitude je prends toujours deux sports différents, là ouais. C'est sur le même sport, et il est consacré en effet aux mondiaux de tennis de table, ouais. Avec le parcours d'équipe de France qui quand même, il faut le rappeler, est exceptionnel puisque la France remporte la médaille de bronze. La France n'est pas passée loin de l'exploit hein, quand même en demi-finale, notamment avec le match d'Alexis Lebrun qui a été perdu après avoir mené 2-7-0 et obtenu deux balles de match face à Liang Jingkun. Malheureusement, c'est pas passé loin puisqu'il y a eu une remontée absolument fantastique de la part de son adversaire, mais je veux quand même rester positif puisque la France a quand même battu auparavant en poule l'équipe de Taïwan, l'Allemagne de Benedikt Duda et le Japon de Tomokazu Harimoto après avoir été mené 2-0 dans la confrontation. Donc ça, c'était pour les phases de poule et ça a permis à la France de terminer première de sa poule. Derrière, les États-Unis 3-0 balayé, c'était vite réglé, mais surtout le Brésil de Hugo Calderano, 5e mondial, ça aussi c'est une belle performance. Et enfin bon, la Chine en demi, on n'est pas passé loin, mais je tiens quand même à préciser que même si la Chine a remporté ses mondiaux en battant le Japon 3-0 en finale, sur le plan local on parle de cette équipe de Chine comme étant la plus faible de l'histoire. Donc ça montre
il
à quel point
l'écart se resserre.
Ça montre à quel point l'écart se resserre, ouais. avec pas mal de nations comme la France, mais aussi la Suède, le Japon, et pour la première fois depuis des années, la Chine commence à être de moins en moins souveraine vis-à-vis des équipes masculines. Donc il y a un truc à faire. Donc deuxième médaille d'affilée pour les Bleus en mondiaux après l'argent 2024 en Corée du Sud, et puis 7e titre de suite pour la Chine, hein, vaincu depuis 2000 quand même, hein, ça fait un moment. Donc voilà, ça c'était pour mon coup de cœur, parce qu'il faut quand même noter que le tennis de table en France est en pleine expansion. À noter justement, et ça s'est tombé aujourd'hui, au niveau du classement mondial qui était actualisé, nous avons désormais 5 pongistes français dans le top 20 mondial.
C'est formidable.
Avec Félix Lebrun en tête, 4e mondial, mais aussi Alexis qui est dans le top 10, Simon Gauzy, l'expérimenté du groupe, toujours présent dans le top 15, mais surtout l'entrée assez fulgurante de Flavien Coton, dont on parle un peu moins et qui est la troisième jeune pépite du tennis de table français. Il est désormais 19e mondial, et je terminerai avec Thibaut Poret évidemment pour compléter ce quintet. Donc tout ça, c'était pour mon coup de cœur de cette semaine, mais mon coup de gueule, c'est pour ça que j'ai dit que je restais sur le même sport. Mon coup de gueule, justement, ça reste toujours sur les mondiaux de tennis de table, et Vanessa, tu as très bien rappelé, puisque Alexis Lebrun, lui, a été victime de cyberharcèlement.
Voilà,
il a reçu une quantité assez affolante de messages de haine qui lui reprochent d'avoir perdu son match face à Liang Jingkun, puisque, oui.
On l'a insulté,
ça a insulté de tous les noms, parce que selon toutes ces personnes, il est accusé par certains d'avoir précipité la défaite des Bleus face au plus faible pongiste chinois. C'est une honte absolue, je tiens vraiment à le rappeler. Ces messages, surtout, bon, on sait, hein, même si on est dans le milieu du sport, ce sont des messages qui viennent de parieurs frustrés qui n'ont au mieux jamais fait de compétition. D'ailleurs,
il y a vraiment des
merci de le souligner.
Voilà,
C'est, il y a vraiment des abrutis partout. Hein.
Mais clairement, c'est soit ils n'ont jamais fait de compétition, sachant que les pongistes qui perdent après avoir eu des balles de match, ils connaissent ce schéma plus que jamais. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement. Mais au pire, c'est pour certains, ils n'ont jamais tenu tout simplement une raquette de tennis de table de leur vie. Quoi.
Moi, j'ai pratiqué en amateur sous Secrétin et Purcard et Gatien, et il y a quand même un couloir de chance qui est énorme, c'est-à-dire des fois la balle a rien,
a
rien,
ça touche, il faut
le comprendre.
C'est justement pour ça que je tiens vraiment à rappeler que c'est toutes ces personnes frustrées, ce sont des personnes qui n'ont jamais tenu de leur main. Quoi.
On lui fait part de notre soutien, nous aussi aujourd'hui. On dit, on pense, du moins on essaie de s'élever à l'universel pour dire que les passionnés de sport le salueront et les passionnés de paris sportifs le haïront. Mais l'essentiel, c'est que nous, les passionnés de sport, on va continuer à l'aimer et puis on va lui dire bon vent, bonne chance et bonne continuation.
Exactement.
Non, mais on est très fiers des deux frangins.
Exactement.
Là,
exactement.
C'est une pépite extraordinaire qu'on avait.
Bien sûr. Allez, la deuxième pause musicale et ensuite on parle du Paris Saint-Germain à travers notre point foot avec notre ami Stéphane Desenclos de 433foot.fr.
Éblouissant d'amoureux, monde mercenaire et ambitieux, tout se confond aveuglément dans la folie et dans le sang. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard. Autour de châteaux vallons, puissance et gloire, étrangers brûlant par coups, qui tôt ou tard finit sur un dernier mot d'un. Portée par la tourmente, douce, romantique ou intrigante, nul ne sait rien de vos secrets, de vos désirs, de vos regrets. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard. Autour de châteaux ballants, puissance et gloire aux fantasmes éternels, sous la lumière illusoire d'un soleil artificiel.
Voilà, donc je pense qu'on a notre ami Stéphane Desenclos au téléphone. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Bon Stéphane, bonsoir, Philippe. Ouais, Stéphane, ils l'ont fait, ça y est, le Paris Saint-Germain. Donc ça y est, ils ont leur deuxième finale consécutive de Ligue des Champions.
C'est pas fini, il faut la gagner.
Oui, oui, ben, ça, Bernard, c'est un autre problème. Ouais, pour te dire, on a notre ami Bernard Ménez, hein, qui est président de
voilà. Non, qui est ex-président. C'est
un, ah oui, président d'honneur.
Il est président d'honneur.
On est un président
d'honneur. Il est président d'honneur.
Voilà. Oui, oui, donc qui est avec nous et qui est un grand amoureux du sport et qui va donc probablement réagir. Donc Paris l'a fait, hein, Stéphane.
Ouais, Paris l'a fait, et voilà, bah, ça, surprise générale, mais c'est vrai qu'on sentait quand même un peu venir ces derniers temps, hein, ouais. Avec les matchs contre Chelsea, Liverpool, que ça a monté en puissance, et puis bah, finalement, tout le monde est encore estomaqué, le petit déclic a été enclenché un peu plus tard que la saison dernière, hein, parce que c'était au mois de janvier contre Manchester, là ça a été, je pense, au match aller contre Chelsea, mais bon, ils sont là, quoi, ils sont là.
Ouais, on n'a pas trop tremblé quand même, beaucoup moins qu'au match aller quand même.
Je voudrais signaler quand même qu'on doit beaucoup au gardien.
Ouais.
Le gardien du PSG a été.
Oui, Safonov, oui.
Sans ses arrêts, là, on n'en sortait pas. Hein.
Ouais. Donc, Marius, tu vas nous dire contre qui le Paris Saint-Germain. On le sait, mais.
Oui, parce qu'il y a eu une deuxième demi-finale au cas où les gens ne savaient pas.
La victoire du PSG
au match aller. Il y a eu 1-1, donc ça fait 5-6 au cumulé. Hein, donc Paris a gagné. Et ensuite, il y a eu Arsenal-Atlético. Pour les gens qui ont oublié, quand même, il y a quand même une autre demi-finale. Et c'est Arsenal qui s'est imposé à la maison 1-0 contre l'Atlético. Et du coup, ça fait 2-1 au cumulé. Ça sera une finale Arsenal-PSG le 30 mai à 18h. 18h, c'est très important.
Ouais, faut pas oublier.
Griezmann, il a joué, mais c'était la dernière.
Hein, c'était la dernière.
Oui. Stéphane, t'en penses quoi de cette finale?
Bah, cette finale, moi, je pense que le Paris Saint-Germain est quand même favori de cette finale. C'est une finale très anglaise. Je suis pas sûr que. Qu'on ait un énorme
un grand match, oui, je suis d'accord.
Cette équipe c'est un gros match. Hein, maintenant, il y en a qui aiment beaucoup. On l'a vu après le match aller PSG Bayern, hein, qu'il y en a qui préfèrent les matchs où on gagne à zéro.
Parce que soi-disant que voilà, les entraîneurs n'aiment pas les équipes qui prennent des buts. Ouais. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Ça.
J'espère que ça sera pas un match. Qui va être à sens unique avec le PSG qui domine mais qui n'arrive pas à marquer. Tout sera dans l'efficacité des joueurs du Paris Saint-Germain. On a vu à Munich ça a marqué, ça a réussi parce qu'ils ont marqué un but dès la troisième minute qui a changé un peu le cours du match. Donc là c'est un peu pareil, hein. Si Paris peut ouvrir le score, ça va être compliqué.
Ce serait mieux.
Ouais. Alors, Marius, Arsenal, club anglais en finale de Ligue des Champions, et il y aura d'autres clubs anglais en Europa finale, League. Aussi bien en Europa League
et qu'en
Conference League. C'est un peu comme les Italiens en 2003, si c'est que les Italiens avaient perdu toutes leurs finales en 2023.
En Europa League, coup, on aura un club allemand et un club anglais. Oui. Alors, Fribourg s'est débarrassé de Braga 3-1 à la maison, donc au cumulé, ça fait 4-3. Et Aston Villa-Nottingham, c'était un duel 100% anglais. C'est Aston Villa qui gagne 4-0 à la maison, ça fait 4-1 au cumulé. On aura donc la finale Aston Villa-Fribourg le 20 mai à 21h.
Ouais,
et en Conference League, c'est Crystal Palace qui s'est dégagé du Shakhtar Donetsk 2-1 à la maison au cumulé 5-2. Et malheureusement, on a eu Strasbourg-Rayo Vallecano le match retour et Strasbourg s'est incliné 1-0 à la maison, 2-0 au cumulé. Ça sera donc une finale Crystal Palace-Rayo Vallecano le 27 mai à 21h.
Ouais, Stéphane, c'est dommage pour Strasbourg, il a manqué la petite marche supplémentaire.
Ouais, dommage pour Strasbourg, mais ce que je dis, c'est que ce qui a été le tournant de la saison, mine de rien, ça a quand même été le transfert de Lyon Rovenior de Strasbourg à Chelsea. En fait, ça a coulé deux clubs, Chelsea et Strasbourg. Quoi. Donc, c'est vrai que Strasbourg a quand même été en demi-finale, hein, faut leur accorder ça. Mais sinon, en championnat, ils ont complètement perdu pied. Et puis, ils ont perdu. Donc, aussi, ils ont eu de la chance sur les quatre derniers matchs. Ils en ont joué un très bien, c'est le match retour contre Mayence. Sinon, après, ils n'ont pas été à la hauteur, ni à l'aller, ni au retour contre le Vallecano. Et puis, je ne parle pas du match aller, même à Mayence. Et en championnat aussi, c'est une catastrophe. Maintenant, à leur décharge, ils ont aussi perdu leurs deux gros joueurs devant, notamment surtout l'Argentin Panicelli, qui est son remplaçant, ou en tout cas son alter ego est Mega aussi. Donc quand tu joues sans ces deux-là, plus un Barco diminué, ça te change quand même un peu une saison, quoi.
Ouais, c'est sûr. Allez, 33e journée de Ligue 1, c'est l'avant-dernière journée.
Et c'était multiplex, eh oui. Ou presque.
Oui, bah,
multiplex,
oui,
ou presque.
Ça va revenir l'année prochaine. Hein. Il n'y aura un peu plus de multiplex le samedi. Hein. Ça sera mieux, Bernard. Ouais. Nous, on est une époque où on a connu les multiplex.
Ouais. Ouais. Et le vendredi, c'était Lens-Nantes. Oui. Et la belle histoire à Lens, hein. C'est le jeune de 16 ans, Mézian Mesloub, 20 secondes après son entrée en jeu, qui marque le seul but de la rencontre.
C'est une belle histoire, ça.
Et qui qualifie Lens en Ligue des Champions. Ouais. Et qui envoie Nantes en Ligue 2.
Ouais, ouais, définitivement, ouais.
Donc la belle histoire. Ouais, ouais. Ensuite, on a eu.
Pas la belle histoire pour Nantes, c'est pas une belle histoire.
Bah, pour Nantes, effectivement,
ça fait
non.
Quelques temps que ça.
Ça leur prend des
ça prend des vraiment
il y a
Nantes,
un passé, il y a un passé quand même chez Nantes.
Ouais. Oui, ouais, bien sûr.
C'est dommage.
On va éviter de remettre une pièce dans la machine, mais le problème vient d'un certain Valdemar Quitta. Ah, oui. Voilà.
Et le multiplex, du coup, hein, on a eu PSG-Brest et victoire du PSG face à un bloc bas. Le PSG fait le strict minimum grâce au but de Désiré Doué. Le PSG est maintenant quasi sûr d'être champion avant le déplacement très important à Lens. Ensuite, on a eu Toulouse-Lyon. Et là, grosse surprise, victoire de Toulouse 2-1. C'est la contre-performance du week-end. Hein. Lyon perd très gros à Toulouse face à des Toulousains qui ne jouent plus rien et réduits à 10. Les Lyonnais ont été décevants et perdent leur troisième place. On a eu Monaco-Lille et un des gros matchs en jeu encore. Hein. Victoire des Lillois 1-0 contre Monaco. Ils montent à la troisième place, qui prennent la place de Lyon. Monaco ne peut plus jouer la Ligue des Champions, ça y est, c'est fini pour Monaco. Ouais.
Une Conférence Ligue qui éventuellement
au mieux.
La Coupe de France. Hein.
Mmh. Ouais. Ouais. Ensuite, on a eu Rennes-PFC, victoire de Rennes 2-1. Ça fait une cinquième victoire de suite hein, pour les Rennais, s'assurant maintenant l'Europe. Et pourquoi pas même la Ligue des Champions hein. Pour cela, il y a un match très important la semaine prochaine, ça sera Marseille pour la dernière journée. Très important. Ensuite, on a eu Le Havre-Marseille et victoire de Marseille 1-0 au Havre. Mais Marseille gagne enfin. Ouais. Cependant, les Marseillais, hein, ils ne peuvent plus se qualifier en Ligue des Champions et visent maintenant la Ligue Europa où il faudra, bah, comme je l'ai dit juste avant, il faudra gagner contre Rennes. Quant au Havre, ils peuvent encore se retrouver barragistes. Attention. Oui. Ensuite, on a eu Angers-Strasbourg et match nul 1-1, soir de fête à Angers, hein, qui grâce à ce point valide son maintien. Strasbourg, cependant, après leur élimination, ne gagne toujours pas et disent adieu à l'Europe. Voilà, c'est malheureusement. Ouais. Ensuite, on a eu Metz, Lorient et grosse victoire de Lorient 4-0 à Metz. Les Merlus écrasent Metz à la maison. Lorient, auteur d'une saison historique, faut le dire quand même, hein, aura un dernier match à jouer à la maison contre le Havre. Metz, eux, étaient déjà en Ligue 2, on le savait. Ensuite, on a eu Auxerre-Nice et là, c'est un des plus gros matchs peut-être à enjeu qu'il y ait eu. Ouais. Victoire 2-1 de Auxerre. Et Auxerre qui envoie Nice en barrage.
Mais attention.
Voilà, Auxerre qui envoie Nice en barrage et a maintenant son destin entre les mains. Hein. Mmh. Dimanche prochain, Auxerre va jouer face à Lille. Donc, pas facile. Et Nice espère un faux pas.
Nice joue
mais Nice
Metz.
Joue contre Metz, voilà, le dernier de Ligue 1 pour espérer se maintenir.
Ouais.
Voilà, ça va être attendu jusqu'au bout.
Donc le classement, Paris Saint-Germain 73 points, 2e Lens 67, 3e Lille 61, 4e Lyon 60, 5e Rennes 59, 6e Marseille 56 et 7e Monaco 54, voilà pour les places européennes. Le Paris FC est 11e avec 41 points et en bas de tableau, Stéphane, 14e Le Havre 32 points, 15e Auxerre Nice 31 points, 17e Nantes qui est condamné 23 points et 18e Metz avec 16 points. C'est vrai qu'on avait dit que Nice devait se méfier. Bah, c'est le cas.
Ouais, tout à fait. Et puis bon, c'est pas c'est pas joué hein, parce que les derniers matchs, les matchs en jeu comme ça, souvent il se passe rarement la logique quoi. Donc c'est vrai que sur le papier, Lille doit battre Auxerre pour terminer rester troisième de Ligue 1. Nice doit battre Metz qui est lanterne rouge pour du coup éviter le barrage. Mais bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Rappelez-vous l'année dernière notamment. notamment le scénario de l'année dernière.
De Reims qui s'était fait.
Ouais. De la Coupe de France, puis qui, en 2-3 matchs comme ça, perd. Et puis le Havre qui va. Qui aurait pu penser, par exemple, exemple, qui aurait pu penser Strasbourg-Le Havre, que Le Havre gagnerait à Strasbourg. Ouais. Alors, Strasbourg, je crois, devait gagner pour jouer au moins la Ligue Europa, je crois. Et contre Le Havre, qui était à l'époque 16e ou 15e de Ligue 1, quoi.
Ouais,
ou 16e. Donc, c'est assez fou. Donc, impossible vraiment de dire. Normalement, c'est vrai que Lille devrait battre Auxerre et puis Nice battre Metz, mais bon, rien n'est joué.
Absolument. Puis que parmi les matchs, on a aussi un Marseille-Rennes, on l'a dit, et puis un Paris-FC-PSG, ça sera donc à nouveau le derby. On passe à la Ligue 2 maintenant, ça y est, c'est fait.
Ça y est, c'est fini.
34e et dernière journée, c'est fini.
On sait maintenant qui va monter et qui va descendre et qui va être en barrage. Donc on a eu Grenoble 3, Grenoble qui gagne 1-0, mais c'est anecdotique, ils sont déjà champions 3. Là, match très intéressant, on a eu Bastia-Le Mans, victoire 2-0 de Le Mans, mais le match a été arrêté.
Pour moi, c'est joué, c'est
mais
fait.
Le Mans sera, voilà, Le Mans sera sûrement en Ligue 2, Bastia en Ligue 3.
Sera enterré, voilà. Donc c'est
Bastia en Ligue 3
fait.
Aussi. Ouais. Ensuite, on a eu Saint-Étienne-Amiens, grosse victoire de Saint-Étienne, malheureusement, Le Mans a gagné, donc Saint-Étienne se retrouve en barrage, Amiens, eux, sont en Ligue 3. Ensuite, on a eu Red Star-Montpellier, match nul 1-1, le Red Star est en barrage. En plus, ensuite on a eu Annecy-Rodez, victoire de Rodez 2-1 à Annecy, Rodez est donc aussi en barrage. On a eu Reims-Pau, victoire 5-3 de Reims, Nancy-Dunkerque, victoire de Nancy 3-2, Clermont-Guingamp, victoire de Clermont 1-0, Laval-Boulogne-sur-Mer, victoire de Laval 2-1, Laval va jouer le maintien, enfin le barrage du maintien pour la Ligue 3. Et on va avoir du coup les playoffs qui vont se jouer mardi.
Oui, alors je vais rappeler d'abord le classement. Donc 3 qui est champion de France de Ligue 2 avec 67 points. Devant Le Mans, on peut considérer qui terminera deuxième avec 62 points. Troisième Saint-Etienne, 60 points, qui va avoir des regrets d'avoir perdu des matchs importants au cours de la saison. Quatrième, le Red Star, 56 points.
Quoi, Saint-Etienne ne monte pas ?
Non.
Non, pas encore, ils vont jouer les barrages.
Ils vont jouer quand même des barrages. C'est pas impossible quand même.
Non.
Cinquième, Rodez, donc 58 points qui terminent avec le même nombre de points que le Restar, mais il y a un goal à vrai supérieur pour le Restar, plus 11 contre plus 6 à Rodez, et 6ème Reims avec 56 points, et en bas de tableau, donc effectivement, 16ème Laval, 32 points, 17ème Bastia, 28 points, et 16ème et dernier, donc 18ème, pardon, et dernier Amiens avec 24 points.
Ouais.
Donc le barrage, c'est mardi.
Du coup, c'est mardi, et ça sera un Red Star Rodez, et vendredi, c'est Saint-Etienne, du coup, qui va prendre le gagnant du playoff.
Voilà. Bon, Stéphane, ça y est, le verdict est tombé.
Ouais, le verdict est tombé. L'étonnant quand même, l'énorme coup quand même de la saison, même de la soirée, c'est quand même Le Mans.
Oui.
Le Mans, c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable ce que font les Manceaux. Ils ont gagné à Lens, à Bastia, pardon, pour la dernière journée. Alors moi, j'avoue que personnellement, je ne voyais pas trop gagner à Bastia.
Moi aussi.
Je pensais plutôt au match nul, et donc Saint-Etienne en profite, tant mieux pour eux, bravo, chapeau, c'est un exploit incroyable. Quoi,
surtout que c'est un club qui vient de loin, ils ont eu des gros problèmes, ils sont descendus très bas, ils ont failli disparaître, et puis finalement ils remontent, et à un moment ils ont même eu un petit coup de moins bien, on s'était dit ils vont complètement louper le wagon, et bien non, ils finissent deuxième finalement.
Voilà, maintenant il y a des leçons à retirer de cette saison. Moi, ce que je pense, c'est que les Saint-Etienne, les nouveaux propriétaires de Saint-Etienne, les Canadiens ont fait un peu n'importe quoi quand même, je pense, d'aller chercher un entraîneur norvégien qui ne connaît pas la Ligue 1 d'abord, donc il a pas réussi à les fourrer. Et en plus, ils ont attendu très longtemps avant de s'en séparer. Je pense que peut-être que Philippe Montagny aurait pu arriver plus tôt pour essayer de commencer ça, parce que là c'est magnifique ce que fait Le Mans, mais c'est aussi quand même la défaillance de
Saint-Etienne sur des matchs importants, on l'a dit, des matchs importants.
Exactement, mais même pas que, avant de l'époque là, ils ont perdu contre 3, 3, c'est champion, c'est un gros club, quoi, mais je crois qu'avant, il faudrait regarder,
Ils ont perdu Bastia.
Ils ont perdu Rodez aussi.
Ouais,
contre le, ils perdent à Bastia.
Ouais, ils perdent à Bastia.
Ils perdent à domicile contre Le Mans déjà, il y a longtemps. Ils doivent peut-être perdre contre Guingamp aussi, ou un club comme ça, à domicile. Donc, ils ont raté des étapes importantes, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. Et puis, on croit peut-être que ça va être facile pour eux, mais je pense que ça va pas être, ça va pas être facile. C'est pas gagné. Bon, déjà, que ce soit Auxerre ou Nice, ou peut-être même Le Havre, ça sera des équipes solides qui auront largement du répondant en face d'eux, quoi. Donc ça va être hyper même déjà avec dit moi Rodez n'a pas dit son dernier mot, hein, ça fait 20 matchs sans perdre, hein, la seule équipe dans toute l'Europe qui fait ça, invaincu en 2026. Il va falloir les bouger, hein, pour les sortir.
C'est assez incroyable. Allez, le National, avant-dernière journée, 33e.
National et Orléans, qui gagne contre Fleury, malheureusement.
Ça va être un match à 3.
Voilà. Ensuite, on a eu Rouen.
2-0.
2-0, pardon, ouais. Rouen, Versailles, victoire de Versailles, 3-1. Heureusement pour Fleury, oui. Ouais. Et Paris 13 Atlético contre Bagne, match nul 1-1. Paris 13 Atlético qui valide son maintien grâce à ce point.
Oui, et comme Dijon est allé gagner au Puy 2-1 et que Sochaux a été battu à Châteauroux 2-1.
Ils sont en Ligue 2.
Donc c'est Dijon qui va finir donc champion du National avec 62 points devant Sochaux 57. Troisième Fleury-Mérogis 54. Quatrième Rouen 52 ainsi que Versailles. Mais plus 13 pour Rouen contre plus 12 pour Versailles. Et le 13e donc Paris 13 Atlético 32 points. Et puis en bas de tableau, donc Bourg-en-Bresse 14e avec 31 points, 15e Quirène 30 points, 16e Châteauroux 29 points, donc il y a encore une petite lutte, hein, et puis 17e Saint-Brieuc qui est condamné avec 26 points. Stéphane, ça va être un match à 3, on va se régaler vendredi à Fleury, hein.
Ah oui, on va se régaler, en sachant que Fleury a plus que jamais
Fleury-Mérogis, hein.
Oui, Fleury-Mérogis, c'est ça.
Et comme disait, je connais bien la prison.
Et comme disait le président maintenant Bovis, on connaît maintenant Fleury-Mérogis pour le club de foot et plus pour la prison.
C'est
important.
C'est mieux.
Donc Fleury Rouen, puis Versailles Saint-Brieuc, hein.
Ouais, et puis avec un match nul leur suffit, sauf si Versailles fait un score énorme, ils ont une meilleure différence de but.
Ouais, y a mais un, c'est vrai que ouais. Ça va être vraiment un match à 3, hein. Alors c'est vrai que Versailles.
Fleury garde le son des centres des mains. Maintenant, si jamais ça se passe mal, à match nul, par exemple, si Versailles gagne, je crois que peut-être Versailles passe devant, quoi. Donc, Versailles, c'est, il y a eu quelques mauvais résultats, ils ont baissé, puis ils sont venus fort et tout, et ils vont se faire un peu peut-être sans mordre les doigts, Versailles, mais c'est, ils sont aussi pas loin de trucs. Mais bon, là, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va avoir une Ligue 3 hyper intéressante avec quand même des gros clubs avec des gros clubs comme Valenciennes par exemple, comme Caen c'est ça va être passionnant, quoi. Donc c'est hyper passionnant, puis même le suspense va être encore bien, que ça surtout jouer un match, hein. Fait le travail contre Rouen. Ouais.
On va se régaler en tout cas vendredi soir. Allez, on finit avec les féminines,
c'était la dernière journée semaine. Et Lyon s'est imposé 3-1 face à Montpellier. Le Paris FC a claqué Lens 6-1, le PSG a gagné 2-0 et Saint-Étienne-Fleury match nul, ce qui du coup nous donne en play-off Lyon 1-1, Paris FC, PSG et Nantes.
Oui, parce que Lyon 60, Paris FC 48, 3e PSG 47 et 4e Nantes 41. Je voulais quand même dire que Fleury termine 5e,
malheureusement.
30 points.
Malheureusement.
Et que Dijon, qui va disparaître, est aussi dans le même nombre de points que Dijon, 6e. Mais voilà, ils vont disparaître et donc les play-offs.
Les play-offs, la demi-finale, ça sera le 16 mai. Donc on aura Lyon contre Nantes et le PFC contre le PSG.
Ouais, et hier, donc Lyon qui a gagné la Coupe de France.
On s'y attendait un petit peu, malheureusement, c'est l'habitude. Hein. Victoire de Lyon 4-1, c'est la 11e. Pour Lyon, et Paris reste sur 15 matchs sans victoire face à l'OL.
Ouais, il n'y a pas eu photo. 30 secondes pour finir, Stéphane. Peut-être un quadruplé pour les Lyonnaises.
Ouais, excuse-moi, je n'ai pas entendu la question.
Peut-être un quadruplé pour les Lyonnaises.
Ouais, peut-être, tout à fait. Bah, on a vu, on s'y dirige tout droit, hein, parce que c'est pas chez eux en plus. Je sais pas comment on va, on sait jamais. Hein, en foot, comme j'ai coutume de dire que tout est possible en foot, donc on sait jamais quoi. Mais c'est vrai que ça va être, ça sont les grandes, bah, comme tout le temps, les grandes favorites de ça. Ça va avoir la finale de Ligue des Champions. Ça va être, c'est assez palpitant quand même. Il arrive à Lyon.
Oui, c'est sûr. Merci en tout cas, Stéphane. Et puis rendez-vous la semaine prochaine hein, pour,
okay, pour bah, encore bonne une soirée, belle semaine.
Et puis,
bonne soirée à toutes et à tous.
Message personnel vendredi soir sur Fleury Mérogis. Bon, enfin, voilà. Il a raccroché. C'est pas bien grave. Allez, merci en tout cas. Bernard, ça a été un immense plaisir.
Ben, c'est pareil. Hein? Non, mais c'était intéressant. Moi, je connaissais pas tous ces résultats, mais je me trompe pas. Dijon monte alors.
Oui, Dijon remonte.
C'est ça, oui, c'est...
Ah, c'est bien. Ouais,
merci Azad.
Merci à vous.
Et puis on se voit le 30 mai.
Avec plaisir.
Jour de finale de Ligue des Champions aussi. J'ai remercié tous ceux et toutes celles qui m'ont accompagné donc ce soir. Et puis bah écoutez, merci à Léo d'avoir été aux manettes brillamment une nouvelle fois ce soir. On finit comme chaque lundi en musique et on laisse le témoin à nos copains du bout du foot. Belle soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous.
Bonne soirée.
Boy, je m'appelle Natalia. Il me dit je t'aime, il me parle de familia. Il me dit Rosa Marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, y'en a. Mais on m'appelle Madame Caillou. Cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas, appelle mes encahiers. Je l'excès déjà sans carrière. Ce type non bah ouais, c'est carré. Comme maman, j'aime les pierres taillées. Sur ma route, je lui dirai d'aller se faire foutre. Et s'il frappe la foudre à ma porte, non, non, moi je ne loue. Je lui ai dit, dis-moi tout, dis-moi tout. Il était chelou, un retour, demi-tour, demi-tour. J'aurais dû seulement faire demi-tour, demi-tour. 200 postes, combien il faudra, demi-tour, demi-tour. Je lui ai dit, dis-moi tout. Sur ma route, je lui dirai d'aller se faire foutre.